Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Aujourd'hui, un texte de Louis Guillou, Coco perdu. Louis Guillou est né à Saint-Brieuc le 15 janvier 1899. Son père était cordonnier et il raconte les combats de ce militant socialiste dans son premier roman « La maison du peuple ». Il est resté toute sa vie attaché à sa ville natale et il y a situé l'action de plusieurs de ses romans. Au lycée, quand il était surveillant, il est devenu ami avec le professeur de philosophie Georges Palante et il s'en est inspiré pour composer le personnage de Cripure, le héros pathétique de son ouvrage le plus connu, Le sang noir. En 1922, il est traducteur pour le journal L'Intransigeant. Il a aussi traduit Margaret Kennedy et l'auteur noir américain Claude McKay et même John Steinbeck. C'est un auteur engagé. Il signe la pétition parue le 15 avril 1927 dans la revue Europe contre la loi sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre. C'est une loi qui interdit toute indépendance intellectuelle et toute liberté d'opinion. En 1935, il participe au premier congrès mondial des écrivains antifascistes, puis il devient responsable du Secours Rouge, l'ancêtre du Secours Populaire. André Gide a remarqué le roman Le sang noir, qui a manqué de peu le prix Goncourt. Il invite Guillou à l'accompagner dans son célèbre voyage en URSS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa maison était un lieu de rencontre de résistants. À la Libération, il est interprète pour les tribunaux militaires américains. 1945 est le début de son amitié avec Albert Camus. Le 19 septembre de cette année 2013, apparut chez Gallimard la correspondance qu'il a entretenue avec Albert Camus de 1945 à 1959. Coco perdu, c'est l'avant-dernier livre publié par Louis Guillou. Coco perdu, c'est le récit de deux jours d'errance et de rencontres insolites. Deux jours à attendre le courrier du lundi, deux jours de désarroi. Ce vieil homme qui arpente les rues d'une ville de province, ce retraité dont toute la vie sans doute s'est passé à battre en retraite le plus dignement possible, ne sait pas encore qu'il se parle à lui-même parce qu'il n'a plus d'interlocuteur. Il vient d'accompagner sa femme au train de Paris. Brève absence, court voyage, rien de tout cela. Après deux jours d'angoisse inavouée, il doit reconnaître que Fafa s'en est allé pour toujours. La détresse de Coco, le courage quotidien, l'humour et le désespoir, tout cela est caché sous des mots qui donnent l'illusion d'être des paroles en l'air.
Dans la salle d'attente, je veux pas dire dans le hall de la gare centrale, je vous parle pas du hall de la gare routière, celle des petits chemins de fer départementaux dans le temps. Le tortillard, qu'on l'appelait. C'est le hall de la gare des grandes lignes que je veux dire. Comme je m'en allais hier soir, après avoir acheté mon tabac à la marchande de journaux, il devait être dans les 9h, 9h30 par là, un arabe est entré bourré. Il disait qu'il voulait du travail et que personne lui en donnait. Les rares bonnes gens qui se trouvaient là s'en foutaient, on pense bien. Ils y pouvaient rien. Il n'y avait qu'à le laisser gueuler, mais comme il était bourré, et qu'il gueulait de plus en plus fort, et qu'il gesticulait, vous voyez ce que je veux dire, les gens s'écartaient. Ils avaient la trouille, forcément. Les sidis, ça joue facilement du couteau, surtout une fois bourré. Et alors, quoi? Moi, j'y pouvais rien non plus. Il avait pas tous les torts, remarquez, mais vous savez, moi, question politique, c'est fini depuis longtemps. Oh là là! Qu'est-ce que je foutais là? Je sais pas. À part que j'étais venu acheter mon tabac. J'aime pas la gare et j'y viens tout le temps. Tiens, hier matin encore, mais là c'était un cas de force majeure puisque Fafa prenait le train. Donc hier matin, toujours à la gare, mais ce coup-là dans le hall de la gare routière, pendant le petit coup d'orage qu'on a eu vers midi, juste au moment où Fafa venait de passer sur le quai et où moi je venais d'apercevoir le commandant, voilà qu'on s'est trouvé, on va pas me croire, devant un type enchaîné. Je blague pas. Un type. Un homme, si vous aimez mieux. Enchaîné. Il était assis sur un banc dans le hall. Je croyais que ça se faisait plus de balader des types enchaînés, comme on voyait dans le temps des gitans balader un ours ou un singe. Je croyais pas. Enfin, j'y pensais jamais. À côté du type, il y avait un gros jeune bouffi de gendarme tout neuf qui avait l'air de s'emmerder, je vous dis que ça. Et puis encore un autre gendarme, mais celui-là, un chef, qui regardait à la porte si la pluie allait pas bientôt finir. Enfin, il y avait encore un quatrième couillon, un vrai plouc, une grosse tête de lard toute ronde et rouge comme un ballon de gosse, tandis que le type enchaîné, lui, était plutôt maigre et pâlot. La gueule en lame de couteau. Genre moko, voyez ce que je veux dire? Le plouc restait planté les mains dans les poches à regarder vers le fond du hall où il n'y avait rien. Des gros sabots, des habits tout sales, dégueulasses, déchirés, pas de casquette, une musette, un vrai bouseux. J'ai d'abord cru qu'il était saoul ou mal réveillé. On n'était pas loin de midi. Ça j'en suis sûr, la preuve... C'est que je venais de conduire Fafa, c'est ma femme, au train de midi, et que si j'étais pas allé jusque sur le quai avec elle, c'est parce qu'elle avait pas voulu. Elle m'a dit qu'elle saurait bien se débrouiller toute seule. Et puis aussi parce qu'au moment de passer le portillon, j'avais pourtant pris mon billet de quai, voilà que j'aperçois le commandant. On l'appelle commandant comme ça pour rigoler, parce que c'est un ancien combattant. Fafa a très bien compris la combine, elle a pas du tout gueulé. « Mais bien sûr, t'as raison. Rattrape-le, autrement il va filer. » Donc, Fafa et moi, on s'est quittés comme ça. Faut dire qu'elle était pas trop chargée, et qu'elle était tout le matin d'une douceur d'agneau, trouvant tout bien, tout facile, ayant même réussi à boucler sa valise toute seule, ça s'était jamais vu, et n'ayant un peu insisté que pour partir un peu plus tôt parce qu'elle voulait passer à la poste, ayant une lettre à y mettre, qu'elle voulait jeter elle-même à la boîte. On avait pris un taxi à cause de la valise. Le taxi a eu du mal à arriver à la poste vu que c'était le marché. La fin du marché, mais c'est là qu'il y a le plus de monde, justement. Mais elle a voulu quand même. Le chauffeur s'est débrouillé, je sais pas comment. Elle est descendue du taxi pour aller jusqu'à la boîte. J'aurais pu le faire à sa place. Elle a pas voulu. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis je me disais qu'on serait en retard. Bref, on est arrivé à temps quand même, et je serais passé avec elle sur le quai, mais puisqu'elle a pas voulu, bon. Faut pas les contrarier. Et c'est là que j'ai aperçu le commandant et que l'orage a commencé. Vous avez entendu le coup de tonnerre? Je me suis mis à cavaler à travers la cour de la gare sous la flotte. Je voyais bien que mon vieux François, c'est le commandant, m'avait pas repéré. Il se trottait en boitillant du côté de la gare routière. Pas difficile à comprendre qu'il allait attendre son quart. Je me suis mis à crier « Ohé, commandant !» Voilà François qui s'arrête et tourne de mon côté sa bonne vieille gueule toute renfrognée. Mais en voyant que c'est moi, il se marre. Il avait une belle casquette toute neuve avec une encre dorée et un beau manteau bleu un peu trop long pour lui, qui n'est pas bien grand. Il m'a attendu. J'ai piqué un petit galop. Et alors, à cause de la flotte, on a couru un petit peu pour aller se réfugier dans le hall de la gare routière. Le commandant allait prendre son quart, justement. Et là, on a vu le type enchaîné. Alors là, minute de silence. Oh, dis donc. Le type enchaîné était assis sur son banc dans un coin du hall, son gendarme à côté. On s'est mis à regarder, mais on n'osait pas. On était gênés. Des chaînes. Des vraies. En acier. Des menottes, quoi. Ça brillait, on n'osait pas parler. Le gros lourd, debout à 2 mètres du type, tournait le dos à la porte où le chef gendarme regardait si la flotte allait pas bientôt finir et si le car allait pas s'amener. Le type enchaîné fumait une cigarette. Mais pour la prendre comme pour l'enlever, il levait à tout coup les 2 mains et les chaînes brillaient comme des trucs d'église. Il souriait, mais sans regarder nulle part ni personne. C'était un petit maigriot d'une 30aine d'années, très brun, du genre plutôt nerveux, pas comme l'autre plein de soupe. Nous, le commandant et moi, on aurait voulu savoir. Mais poser la question aux gendarmes, ça nous venait même pas. On se serait fait remettre en place, engueuler peut-être bien. Lily Bale made you always sing a southern tune of the sunshine down in Dixieland. On the old plantation life is one long celebration. Make the Yankees really understand. Sing them a song of moonlight and roses over the radio. They ought to know that life is romantic where the magnolia. J'étais pas pressé. J'avais pas faim. Et puis j'aime pas le restaurant. J'avais plutôt envie de me balader, mais c'est pas marrant de se balader comme ça en ville. Surtout à cette heure-là. Je me plais pas ici. C'est mort. Faut pas oublier que j'ai habité Paris pendant 25 ans. C'est Fafa qui a voulu qu'on revienne ici quand j'ai pris ma retraite. Moi, j'étais pas très chaud. Moi, je voulais bien. On serait au calme, on ferait des balades. Alors on a acheté la villa, ça va faire 8 ans. Mais je m'y plais pas. 8 ans. Vous savez, moi, j'y retourne jamais à Paris. Rue Lacépède que j'habitais. J'aimais bien faire mon petit tour sur la place de la Contrescarpe, descendre la Mouffe, tout ça. Ici, j'ai trouvé quelques vieilles connaissances, quelques vieux copains comme le commandant. Des amis d'enfance, quoi. Mais c'est pas pareil. Quand j'habitais rue Lacépède, le dimanche matin, j'allais aux puces de la rue Gracieuse. Mais il paraît que ça n'existe plus. On a tout foutu en l'air pour construire des immeubles comme partout. Des sociétés. Moi, au fond, je tenais pas tant que ça à quitter Paris. À cause de Fafa, surtout. Je lui disais, « T'es jeune, toi. T'as besoin de distraction. Ici, on a des copains. Là-bas, t'auras personne. » Elle me répondait que ça lui était bien égal. « J'ai toujours aimé la campagne, » qu'elle disait. « C'est pas mon bled, mais c'est le tien. » Ce qu'on a pu rigoler dans les premiers temps quand on se demandait comment on allait l'appeler, la villa. On y a passé des soirées entières en se foutant de tous ces ballots qui mettent une plaque à côté de leur porte. Mia casa, dernière escale. Nous, on voulait pas de ça. Je lui disais, vaudrait mieux rien mettre, tu sais, ça fait bourgeois. Elle rigolait. Bourgeois, tu vas pas faire de la politique. Et puis, du moment que ça nous plaît, on n'a pas de compte à rendre à personne, pas vrai? Elle avait raison, en un sens. C'est ce que je lui ai répondu. Tiens, dit-elle, on va l'appeler la coquette. Tu trouves pas? J'ai dit oui. On a fait graver en italique et doré ce nom-là sur une plaque de marbre qu'on a fait sceller à côté de la porte. Moi, je trouvais ça pas mal. Seulement ce matin, Fafa parti, j'avais pas envie de retourner tout de suite à la villa. J'aime pas les maisons vides. S'il fallait compter tous les pas qu'on fait pour rien sans s'en rendre compte, avant d'aller au restaurant, je voulais passer chez moi voir si le facteur m'avait apporté quelque chose. C'est rare, remarquez, mais moi non plus, j'écris pas souvent des lettres. Pour finir, je suis redescendu vers le marché. Il y avait pour ainsi dire plus personne. Il était pas loin de midi et demi. En passant devant la poste, je me suis encore demandé pourquoi Fafa avait pas voulu que je mette sa lettre à la boîte. Oh, et puis, que ça peut me foutre. Elle est bien libre. J'ai remonté la rue Poincaré. Il n'y avait personne non plus que la vieille vendeuse de billets de loterie dans un coin de porte. Elle avait l'air de grelotter malgré le beau temps. Quand je suis passé devant elle, elle a bredouillé. La fortune, le bonheur, la chance qui passe. Je savais que Fafa m'avait laissé dans le frigidaire de quoi manger. J'aurais qu'à faire réchauffer, mais j'avais pas du tout envie. Manger sur un coin de table dans une maison vide, ça, non. Plus que non. Finalement, je suis quand même allé au restaurant. Au Parisien, ah ben fallu. Un bon restaurant moyen où je connais le patron, les serveuses. Et puis, quelle belle salle. Moderne, haute de plafond, blanche, avec des piliers ronds, ocre. Et partout, sur les murs, des chromos. Vraiment épatant. Rénové. Ça a dû coûter bonbon. On voit qu'il n'y a pas longtemps qu'on a tout remis à neuf. J'ai regardé autour de moi, je cherchais une place. Bernadette a trouvé à me loger en face d'un vieux monsieur chauve, mais très bien mis, qui avait l'air d'un voyageur de commerce. Ce qu'il était, en effet. Il me l'a dit lui-même un peu plus tard. Les gens parlent pas toujours tout de suite. On n'a pas non plus toujours envie de leur parler. On aime bien sa liberté, que voulez-vous? Quand on n'a plus que ça... Il y avait bien, je mens pas, dans les 150 personnes à table, ça fait du monde, et un bon chiffre d'affaires. C'est presque toujours comme ça le samedi. J'ai pas compté, mais dans les 150 par là, les habitués et les pensionnaires, les passants. Le type devant lequel j'étais assis était sûrement ni un habitué ni un pensionnaire, mais un voyageur très bien élevé. Il m'a répondu très gentiment quand je lui ai demandé la permission de prendre place en face de lui. Dans ces cas-là, ça m'arrive d'exagérer la politesse. Ce qu'il faut faire quand on veut donner une bonne impression tout de suite, faire comprendre qu'on n'est pas n'importe qui. Je suis décoré quand même. Je porte à ma boutonnière un certain petit ruban. Le type s'était fait apporter des huîtres, mais il buvait de l'eau. C'était un type joufflu, le teint bien rose, très propre, très soigné de sa personne, un vieux garçon. Il portait pas d'alliance. Nos politesses échangées, il m'a pu regarder. Il continuait à gober ses huîtres. Mais il buvait de l'eau. Vous avouerez, quand on a devant soi une douzaine de Portugaises, je sais pas pourquoi ça m'agaçait. Qu'est-ce qu'on va chercher des fois? Et pourquoi quand Colette, c'est une autre serveuse, il y en a trois aux Parisiens, Bernadette, Colette et Geneviève. Donc, Quand Colette s'est amenée pour prendre ma commande, je l'ai priée de m'apporter aussi une douzaine de portugaises, mais avec une demi-bouteille de muscadet. Le vieux type a pas bronché. Ça m'a encore agacé. Je me trouvais bête. J'aurais mieux fait de m'occuper de mes affaires, de penser à ce que j'allais devenir maintenant que Fafa était parti. Mais justement, je voulais pas y penser. Je voulais pas non plus penser à tout ce que j'avais entendu et vu depuis que je l'avais quitté devant le portillon. Colette m'apporte mes huîtres et ma demi-bouteille de muscadet. Je me mets aussitôt à l'ouvrage. Je remplis d'abord mon verre. Je remarque, pour ainsi dire malgré moi, qu'à l'instant que je m'apprêtais à gober ma première huître, le vieux type chauve en face de moi était sur le point de gober la dernière. Je me suis payé de culot et je lui ai dit « Vous me permettrez bien de vous offrir un petit verre pour avaler la dernière ?» Là, j'ai mis dans le ton de mes paroles une petite intention. Je voulais lui faire comprendre que, voyons, de solides gaillards comme nous, de vieux briscards, de vieux routiers comme nous, qui en ont vu de toutes les couleurs, et jusqu'à présent résisté à tous les vents et marées du siècle, vont pas reculer devant une petite goutte de vin de la vigne. Surtout en gobant des huîtres. Vous me feriez croire que vous en êtes à ce que les médecins appellent un régime ? Allons, allons. Pas de précaution. Nous autres, nous restons solides au poste. Le bonhomme, touché, me répondit que malheureusement il avait fait le vœu de ne plus toucher au vin et que même il n'aurait pas dû se laisser aller à prendre des huîtres. Mais que, comme il est trop difficile de lutter en même temps contre deux tentations, il a choisi de ne céder qu'à celle des huîtres, tout en sachant bien que c'était un peu ridicule de boire de l'eau des viandes dans ce cas-là. Les huîtres lui avaient jusqu'à présent toujours réussi. Le vin lui convenait plus très bien depuis quelque temps, mais pour me faire plaisir, il en accepterait un demi-verre. Je lui en ai versé un verre. Après nous, le déluge, hein. Là-dessus, on a trinqué et le type, en reposant son verre, m'a dit qu'il fallait bien avouer que ce petit muscadet n'était pas du tout mauvais. À quoi je lui répondis qu'une goutte de vin ne pouvait quand même pas lui faire de mal. « Allons, allons, nous en avons vu d'autres. Bon pied, bon œil. » Oui, mais en faisant bien attention, pas vrai. Faut savoir ce qu'on veut, pas vrai. Ou ce qu'on préfère. Mais faut rien exagérer. Il m'a répondu « Le vin, je dis pas, mais il n'y a pas que le vin. Moi, je voyage, vous comprenez, je suis représentant. » Dans ces conditions, il avait toujours beaucoup trop d'occasions, surtout qu'il travaillait pour une grosse boîte de bijouterie. Il s'intéressait surtout aux montres. C'est du luxe, mais justement. Et puis, il en avait pour toutes les bourses, et pas rien que des montres. Aussi différents petits articles brillants, très brillants, des broches, des bracelets, des bagues, dont il transportait toute une série d'échantillons dans sa serviette. Aussi fallait-il toujours faire bien attention, mais il ne lui était jamais rien arrivé sous ce rapport. Ça plaisait énormément aux filles. Il n'avait qu'à ouvrir sa serviette et il avait tout de suite autour de lui des tas de filles. Il savait même pas d'où qu'elles sortaient. Vous comprenez ? Seulement, il était marié. Tiens, j'aurais pas cru à le voir. J'ai rien dit. Marié, ça c'était une autre histoire. Marié, remarié. Pour la troisième fois. Ben oui, il avait divorcé deux fois. Il s'était remarié une troisième et cette fois c'était la bonne. Il était tombé sur une très gentille femme, bien plus jeune que lui, qui lui foutait la paix et qui l'attendait très sagement dans leur petit appartement de l'avenue du Maine. Parce que vous savez, moi j'habite Paris. Je pars comme ça en voyage pour 15 jours, 3 semaines, visiter mes vieux clients et puis je remonte à Paris, où je reste une semaine avec ma femme. Et je repars. C'est la bonne formule, j'aime bien rencontrer du monde. J'aime bien bavarder. Mais j'ai pas pu lui en dire plus long parce qu'à ce moment-là est arrivé le marchand de billets de loterie, le chef, le patron de l'affaire. La vieille qui fait la rue n'a pas le droit d'entrer dans le restaurant. Elle est trop vieille, elle ferait plutôt peur au monde. Lui, le chef, le patron, il s'est mis à parcourir la salle en annonçant « La fortune, le bonheur, la chance qui passe !» et j'ai tout de suite vu que mon représentant en montres et bijoux n'avait plus du tout envie de me raconter ses histoires. Il ne faisait plus que suivre des yeux la promenade du marchand de billets qui allait de table en table. Et il a fini par me demander s'il venait là tous les jours. « Peut-être pas tous les jours, je lui ai répondu, mais souvent. Et sûrement tous les samedis à cause de l'affluence à l'heure du coup de feu. »« Qui sait ?»« Un ancien moine. » Il est resté baba, la bouche ouverte et les yeux écarquillés. « Vous rigolez ?» Moi, bien sûr que non. Tout le monde sait ça en ville, même qu'il a une boutique en plein centre. Allez voir ça. Savez-vous ce qu'il a mis sur le devant de sa boutique? Une photo grandeur nature en pied d'un homme. Comme la photo d'une vedette à l'entrée d'un cinéma. La première photo authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça alors, photo authentique. Ouais. Ça doit être un miracle de la science. Pendant que l'ancien moine faisait sa tournée, la fortune, le bonheur, la chance qui passe. Colette nous avait apporté nos plats et nous allions finir notre déjeuner quand le marchand de billets s'est approché de notre table, tout souriant, tout mielleux, et nous murmurant presque à l'oreille, « La fortune, le bonheur, la chance qui passe. » Tirage mercredi. Sans blague, il avait le regard et la voix blêche des putains qui vous racolent sur le trottoir. Bon, ces billets, il pouvait se les coller quelque part. J'ai jamais voulu, moi. Mais le représentant en montre et bijoux, lui, oui. Seulement, il voulait pas les choisir lui-même. Il lui fallait pour ça une main de femme. Il a appelé Colette, elle est revenue. Il lui a dit... « Vous voulez pas choisir pour moi ?» Elle s'est mise à rigoler, à se trémousser, à faire des manières de petite fille. Il a cru qu'elle allait pas vouloir. L'autre type, le vendeur, attendait. Tout droit, tranquille, ses billets tendus et toujours souriant. Il savait bien que ça allait marcher. Et il avait le temps. La salle commençait à se vider. Il était pas loin de 2 heures et les gens commençaient à se tirer. Si ça allait marcher, tu parles. Allez, fermez vos jolis yeux, a dit le représentant à Colette. Toujours en riant comme une petite fille, Colette a fermé les yeux et allongé la main vers la liasse que lui tendait le défroqué en disant « Comme ça ?»« Oui, comme ça, il m'en faut 4, a dit le représentant. Elle a choisi 4 billets. Mais là, elle rigolait plus et personne ne disait plus un mot. Ensuite, quand elle a rouvert les yeux, on a bien vu qu'elle s'attendait à voir quelque chose d'extraordinaire, comme un miracle. Mais il n'y avait rien à voir que le représentant qui sortait sa monnaie et payait ses billets dans la main du vendeur. Le représentant et moi, on n'a plus trouvé grand-chose à se dire, sinon que le représentant, en rangeant ses billets dans son portefeuille, m'a informé que mercredi prochain, jour du tirage, était le jour de son anniversaire. Alors, vous pensez bien? J'ai payé mon addition et je suis parti.
Vous venez d'entendre le début de Coco perdu de Louis Guillou, présenté par Marie-Noël et lu par Yvan. Vous pourrez entendre la suite la semaine prochaine avec la voix de Dominique. L'accompagnement musical est emprunté au site Archive of the Recorded 78 RPM Records. Vous avez pu entendre Billie Holiday qui chante Your Mother's Son-in-Law lors de sa première session d'enregistrement en 1933, accompagnée par l'orchestre de Benny Goodman et Django Reinhardt et le Hot Club de France, qui interprète Lily Bell en 1935.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez